Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour et bienvenue dans Mégaphone. Aujourd'hui, nous allons parler radio et liberté d'expression au Québec avec notre invité du jour. Simon-Olivier Gagnon, chercheur en archivistique qui vient du Québec. Et Simon-Olivier, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu brièvement de ce qu'on appelle les radios poubelles au Québec, avec une spécificité donc dans la ville de Québec, de radios privées qui peuvent tenir des propos qu'on peut qualifier un peu d'antidémocratiques ou discriminatoires, et puis des collectifs de militants qui se mobilisent pour archiver ces propos, pour essayer, et bien que ça ne reste pas sans conséquences, et de faire pression à la fois sur le régulateur au Québec et sur les annonceurs. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire un peu le paysage radiophonique à Québec?
Bonjour. Le paysage radiophonique au Québec est très vaste. Il y a plusieurs radios communautaires, ce que vous appelez ici des radios associatives. Il y a plus d'une trentaine de radios comme ça. Il y a beaucoup de radios de campus. Il y a des radios d'État qui sont quand même importantes dans le paysage radiophonique. Et il y a également des radios privées, donc des joueurs avec des intérêts là, financiers, corporatistes. Et ces radios-là, dans la ville de Québec, ont, comme vous l'avez dit, là, une très grande importance. Et sur ces radios-là, dans la ville de Québec, il y a beaucoup de propos haineux qui sont parfois tenus. Il y a des figures médiatiques emblématiques là, depuis plusieurs décennies, depuis les années 80, dans la ville de Québec. Et pendant la pandémie, là, il y a une coalition qui s'appelle la coalition Sortons les radios poubelles qui se sont intéressés davantage aux propos qui étaient tenus sur ces radios-là pour documenter les cas de désinformation, là. Mais c'est une... Donc, dans la ville de Québec, c'est ça, il y a une coalition qui est active là, depuis maintenant 10 ans, qui s'appelle la coalition Sortons les radios poubelles, et qui tente de documenter, là, si on peut dire, là, les frasques des animateurs des radios privées.
Alors, quels sont les types de propos? On est sur des propos homophobes, racistes, sexistes,
Effectivement, donc c'est des propos où on va s'en prendre à certaines cibles, que ce soit les Autochtones, que ce soit les mouvements féministes, des associations qui vont être pris là comme cible. Ça peut être les cyclistes dans la ville. À une certaine époque, il y a une des radios là qui avait une campagne qui s'appelait Horn Hunk Cycliste, donc klaxonner un cycliste dans la rue. Donc, et on entendait également là, sur les ondes radiophoniques le son d'un klaxon, donc vraiment pour encourager les automobilistes à entrer en confrontation avec d'autres usagers de la route. Donc, plusieurs types de propos diffamatoires sont tenus là, sur les ondes de certaines radios de la ville de Québec. Et lors de la pandémie, lors des 2 dernières années, c'était également là, des formes de désinformation.
Alors, on peut qualifier ça de conservateur, complotiste?
Il y a eu ça, effectivement. Donc, c'est des propos qu'on peut reconnaître comme étant d'une forme de droite, effectivement, populiste. Il y a eu, effectivement, là, certains propos liés... des complotistes qui étaient invités, là, donc des gens qui sont liés à des radios telles que Radio Sputnik, par exemple.
Donc, on peut parler de radio, quand on préparait cet entretien, Simon-Olivier Gagnon, tu parlais de radio hargneuse. On est dans la culture du clash, de la confrontation.
Ouais. Ben, la meilleure manière de nommer ces radios-là, on appelle ça des radios de confrontation. Et là, après ça, là, la coalition qui se donne comme responsabilité de veiller en fait sur les propos radiophoniques de ces radios-là, ben ils nomment ces radios-là des radios poubelles. Donc on voit vraiment là la polarisation, la polarité. Donc ils en font leur ennemi objectif. Mais le but de cette coalition-là, c'est de veiller sur les propos qui sont tenus sur ces ondes-là et de faire une responsabilité, en fait, que les pouvoirs publics ne font pas, là.
Alors, on va venir sur la question de la régulation, mais pour bien comprendre d'abord ces radios poubelles, ces radios de confrontation donc, qui existent à Québec, au Québec, à qui appartiennent-elles? Est-ce qu'il y a derrière, parce qu'en France, par exemple, on a l'exemple à la télévision de CNews avec Cyril Hanouna, mais on sait très bien qu'il y a Vincent Bolloré derrière, donc des capitaines d'industrie, des intérêts financiers et politiques très orientés. Là, qui est aux manettes de ces radios poubelles et quel est l'intérêt qu'il y a derrière?
Ben, c'est des intérêts financiers, là. Donc c'est des radios qui ont peut-être au début des années 2000 valu quelques millions de dollars et là dont leur valeur a augmenté très rapidement là, au début des années 2000. Là, mais essentiellement, là, une de ces radios-là, pour la nommer, elle s'appelle Choix FM Radio X. C'est une propriété d'une corporation qui s'appelle RNC Media, donc Radio Nord Communication. Et donc, il y a un conseil d'administration, il y a des gens qui ont des intérêts financiers derrière ça. Et la coalition de militants anonymes, là, telle qu'on l'a évoqué, a interpellé à plusieurs reprises les actionnaires, en fait, pas les actionnaires, mais les propriétaires là, de cette radio-là, pour les sensibiliser aux propos qui étaient tenus sur les ondes. Là, donc,
Mais ces propos, les sensibiliser, on peut imaginer qu'ils sont responsables, mais à minima d'accord avec ce qui est tenu, si c'est eux qui sont aux manettes. Est-ce que ce sont les équipes, les journalistes, les chroniqueurs qui débordent, ou est-ce qu'ils sont choisis précisément parce qu'ils ont cette culture du clash et que ça fait de l'audience, et que donc l'audience, ça veut dire des annonceurs, de la pub, de l'argent?
Oui, effectivement, là, vous le dites bien, là, c'est un style d'affaires, là. Une des professeurs en journaliste, là, de l'Université Laval, qui s'appelle Dominique Payette, a nommé que c'est un modèle d'affaires, là, qu'il y a derrière ce type de radio-là. Donc effectivement, à savoir si les propriétaires de ces radios-là soutiennent ce style-là, bien évidemment, mais le travail que la coalition a fait, c'était peut-être de remettre de l'avant là, certains propos de manière plus spécifique qui étaient tenus sous les yeux de ces propriétaires-là, peut-être pour qu'ils soient conscients davantage là, de ce qui était tenu sur les ondes, et c'est des ondes publiques. Là.
Quelle est l'audience de ces radios poubelles, de ces radios de confrontation à Québec par rapport aux services publics, aux radios communautaires? Est-ce qu'on désigne quelle appellation utilisée pour parler des radios associatives? Quel est le poids de ces radios poubelles?
Eh bien, les sondages disent que c'est des radios qui sont très importantes, là. Après ça, on peut toujours douter de la pertinence des sondages et des codes d'écoute et tout. J'ai jamais eu un intérêt très grand pour ça, là, étant issu du milieu associatif, là. Des radios associatives, là, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'impertinent à discuter, là. Mais c'est des radios qui sont tout autant importantes que la radio publique. Et il y a beaucoup d'auditeurs là, dans la ville de Québec qui écoutent ces radios-là. Ou dans leur véhicule, là, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres carrés d'autoroute par habitant là, dans la ville de Québec.
Simon-Olivier, est-ce que tu as un exemple d'un propos emblématique qui a été archivé par ce collectif de militants, c'est Sortons les radios poubelles, et qui serait, voilà, qui représenterait un peu le type de propos et ce que ça pourrait soulever?
Ben, il y a plusieurs types de propos, en fait, qu'on peut retrouver là. Il y a beaucoup de ces enregistrements-là qui se trouvent sur Internet Archive. Donc, si on va sur ce site-là, Internet, d'une entreprise américaine, c'est une OBNL, en fait, là, donc c'est un organisme sans but lucratif qui s'appelle Internet Archive. Et si on tape « Sortons les radios poubelles », on peut trouver plusieurs enregistrements. Il en reste beaucoup, là, malgré le fait que la radio ait fait des demandes de droits d'auteur et que des enregistrements ont disparu de cette plateforme-là. Puis, pour n'en citer qu'une, lors de l'attentat contre la mosquée de Québec en janvier 2017, peu de temps après, là, il y a eu une enquête qui a été ouverte pour faire la lumière sur des événements qui avaient eu lieu précédemment. Une tête de porc avait été déposée devant la mosquée avec un message qui était écrit « Bon appétit ». Et lors de cette enquête-là qui avait été menée, les gens à la radio, dont un animateur qui s'appelle Éric Duhem, se moquaient en fait de ce geste-là qui avait été posé, de déposer une tête de porc là, devant une mosquée pendant un ramadan. Et il discréditait un peu la volonté de faire une enquête là-dessus en soulignant le fait qu'on peut faire des gestes comme ça. Et donc, c'est un enregistrement qui a été fait par la coalition Sortons les radios poubelles. C'est une transcription qui a été faite. Et lorsque ces personnes-là, cette personne-là, qui est un ancien animateur de radio, s'est présentée en politique, eh bien, il y a possibilité de reprendre ces enregistrements-là et de remettre, en fait, sous le nez et de garder un peu de la mémoire de ces événements-là pour dire, ben, regardez, M. Duhem, vous avez tenu de tels propos qui étaient, ma foi, controversés, qui peut-être peuvent soutenir des formes d'incitation à la haine là, et des formes d'islamophobie. Là.
Qui fait partie de ce collectif, de cette coalition militante qui archive, qui garde trace de ces propos discriminatoires, haineux, qui sont tenus sur les radios québécoises?
Ce sont des gens issus des mouvements sociaux, ce sont des gens qui réclament l'anonymat, parce qu'à certaines reprises dans le passé, il y a des gens qui ont vécu, qui ont été ciblés, leur nom a été nommé en ondes sur les ondes de ces radios privées-là, pour les identifier, pour...
menacer.
Les menacer, notamment. Il y a quelqu'un qui a eu une boule de billard là, qui est rentrée dans son appartement, qui a fracassé la fenêtre. Donc, ces gens-là sont anonymes, réclament l'anonymat, et c'est une manière de protéger leur intégrité physique et ainsi que celle de leur famille. Là. Donc,
ils sont nombreux?
C'est une excellente question.
On ne sait pas. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont enregistrer chez eux ce qui est diffusé par ces radios poubelles, ces radios de confrontation. Et puis, quand il y a des propos qui, justement, leur semblent contraires aux principes démocratiques, ils vont les mettre sur Internet Archive. C'est bien ça, leur action?
C'est ça. Donc, ils enregistrent les propos. Les documents deviennent des documents audio qui ne sont pas seulement entre les mains des radios privées. Et ces documents audio-là, parfois, ils les retranscrivent. Donc, on a on peut lire, en fait, les propos tenus. Donc, c'est pas d'emblée, en fait, qu'on peut lire les mots, là. Donc, la retranscription permet de voir un peu plus, des fois, la force d'impact ou les propos tenus. Et ils vont rediffuser ces propos, là, via les médias sociaux. Donc, historiquement, il y avait une page Facebook. Et il y a un compte Twitter également, qui a, je crois, plus de 35 000 tweets, là, pendant 10 ans d'exercice. Donc, leur page Facebook a été fermée là, en décembre 2021. Mais là, il y a des procédures judiciaires qui sont enclenchées là, depuis bientôt 2 ans afin d'identifier ces militants anonymes-là.
Là, ce sont donc qui a porté plainte contre ces militants anonymes, les propriétaires de ces radios poubelles, de ces radios de confrontation?
Effectivement. Donc, les propriétaires de la radio... Parce qu'en fait, une des modalités d'action de cette coalition-là, qui s'appelle Sortons les radios poubelles, c'est d'inviter les auditeurs à formuler des critiques au Conseil de presse du Québec, aux organes de régulation, mais c'est aussi d'envoyer des lettres type aux annonceurs, donc à ceux qui achètent de la publicité. C'est un registre d'action de la coalition. Donc, ils font des campagnes pour dire sur les médias sociaux, regardez, il y a tel annonceur, tel annonceur, tel annonceur, tel annonceur, des concessionnaires de véhicules, des épiceries, des fournisseurs de services Internet. Après ça, il dit sur les médias sociaux, soutenez-vous les propos tenus sur les ondes de ces radios-là. Et donc, la coalition a dressé, et c'était une pratique qu'ils avaient jusqu'à tout récemment, quotidiennement, voire à chaque semaine, ils dressaient une liste des courriels des annonceurs en faisant une lettre type dans laquelle il était inclus. Bonjour, madame, monsieur, vous achetez de la publicité à telle entreprise, vous savez quels propos sont tenus sur les ondes de telle radio, avec des citations parfois dans la lettre type. Et là, les auditeurs étaient invités à envoyer cette lettre-là aux annonceurs. Et là, la poursuite en question de la corporation contre ces activistes anonymes. Jusqu'à présent, là, ils soutiennent qu'ils se font harceler lors des campagnes de sensibilisation. Donc, on peut appeler ça des campagnes de boycott, là. Donc, c'est le litige actuellement tourne autour d'une forme de harcèlement qui est, dans une certaine mesure, pas un harcèlement parce qu'on pourrait appeler ça de la critique médiatique. C'est un registre d'action qui est connu dans le reste des États-Unis. C'est un registre d'action qui est également soutenu par, qui est également adopté par un collectif anonyme qui s'appelle Sleeping Giant. Et c'est une manière de faire de la pression sur les annonceurs pour faire en sorte que le contenu au sein de ces ondes radiophoniques-là change ou peut-être de l'assainir, là, donc de le rendre un peu plus sain. Là.
Mais pour l'instant, ce sont les militants de la coalition Sortons les radios poubelles qui sont inquiétés par la justice. Les procédures sont en cours. Quid de ces propos diffamatoires? Est-ce que la pression qui est mise sur les annonceurs fonctionne? Est-ce que ce collectif arrive à avoir un impact? Est-ce que le régulateur public, donc au Québec, c'est le conseil de presse, peut sanctionner ces radios pour les propos antidémocratiques qui sont tenus à leur antenne?
Il faut dire que le Conseil de presse du Québec, c'est un tribunal d'honneur. Là, donc, les plaintes qui sont adressées à ce conseil-là, habituellement, sont rarement retenues. Mais celles qui sont retenues, là, c'est essentiellement une annonce dans les journaux, une annonce sur le site Internet du Conseil de presse pour blâmer un animateur pour les propos tenus. Donc, c'est un tribunal d'honneur, un tribunal moral. Donc, ça peut avoir une influence sur la réputation de l'entreprise et ça peut avoir conséquemment là, un effet sur les gens qui achètent de la publicité au sein de ces radios-là. Mais je vous dirais essentiellement, là, il y a un effet concret de ces démarches-là, de ces campagnes de boycottage, parce que la preuve en est, en fait, que la corporation poursuit là, depuis 2 ans ces militants anonymes et cherche à savoir leur identité pour que ces actions-là cessent. Donc, ça a un effet très, très concret. Et pendant la pandémie, je vous dirais là, que ces radios-là ont été très écorchées. Une de ces radios-là a été très écorchée là, dû au fait qu'il y avait beaucoup de propos, je vous dirais, là, de l'ordre de la désinformation, voire des propos complotistes qui étaient tenus.
Mais ces radios-là ne risquent pas des amendes conséquentes ou la suspension de leurs droits à émettre?
Bien, c'est ce qui pourrait être fait si des plaintes formulées au sein du Conseil de radio et télévision, le CRTC qu'on appelle, là, un peu l'équivalent de l'ARCOM ici, si ces plaintes-là seraient retenues, eh bien, ça permettrait peut-être d'engager justement des suspensions ou des... plus que des blâmes morales, mais pour le moment, là, c'est une coalition de militants anonymes qui prend sa charge, qui prend cette charge sur leurs épaules là, pour tenter de réguler, si l'on peut dire, les propos tenus sur les ondes radiophoniques. Mais étant donné que c'est fait par des militants, donc ça se fait que des fois, une arme qui est... peut-être la même là, que les propos tenus sur les ondes radiophoniques de ces radios privées-là. Donc, on est dans une espèce de conflit idéologique où on n'est pas dans un débat sain sur le type de radio et le type de propos qu'on voudrait avoir sur les ondes.
Et publiques. Comment expliquer que le régulateur ne se saisisse pas lui-même de cet enjeu?
C'est une excellente question. C'est une excellente question au sein des conseils d'administration, des fois là, du conseil de presse, les gens qui siègent sur le comité qui accueille ces plaintes-là sont parfois dans le milieu de l'industrie, sont parfois dans le milieu des entreprises privées, donc ils ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait une forme de statu quo à cet égard-là. Pour celles et ceux là, qui veulent en apprendre davantage sur ce phénomène-là, eh bien, je vous suggère de consulter là, un ouvrage qui a été écrit par Dominique Payette qui s'appelle « Les brutes et la punaise, les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures ». Et cette professeure-là, Dominique Payette, dans cet ouvrage-là, là, aux éditions Lux, ce qu'elle dit à la fin de l'ouvrage, c'est qu'elle interpelle les politiciens pour qu'ils prennent position sur la place publique vis-à-vis de ce style de radio-là. Et le problème avec ça, c'est que les politiciens n'osent jamais se positionner vis-à-vis de ces radios-là parce qu'ils ont une telle importance, ils ont un tel pouvoir, ne serait-ce que dans la ville de Québec. Là, donc... Donc c'est ce vers quoi Dominique Payette voudrait que elle voudrait vraiment que les politiciens se positionnent là-dessus. Mais les politiciens ont besoin en fait des fois de ces médias pour se faire élire aux 4 ans. Donc les politiciens au municipal, au provincial, au fédéral, à chaque fois personne ose en fait se mouiller ou se positionner sur ces questions-là étant donné qu'ils veulent éviter de se faire traîner dans la boue. Et que leur nom continue d'être répété jusqu'aux prochaines élections où ils vont avoir besoin un peu d'une présence médiatique importante.
Deux dernières questions avant de se quitter, Simon-Olivier Gagnon. Je rappelle que vous êtes chercheur en archivistique basé à Québec et que vous êtes en train de nous parler eh bien, du rôle et des luttes contre les radios poubelles, les radios de confrontation qui existent sur place et qui ont, vous nous l'avez dit, pas mal d'influence. D'abord, sur une petite question quand même sur l'état des médias plus globalement au Québec et de la liberté d'expression. En France, en ce moment, on voit qu'elle est potentiellement très malmenée. On a eu encore, il y a quelques jours, un tribunal de commerce qui a empêché un média, Mediapart en l'occurrence, de sortir une affaire au nom du secret. En tout cas, il y a pas mal de combats en cours. Comment ça se passe en ce moment au Québec? Est-ce qu'il y a aussi des atteintes comme ça à la liberté d'expression, d'enquête journalistique et une confrontation un peu démocratique forte?
C'est une excellente question. Je pourrais vous pointer en fait là, vers le cas d'actualité au Québec. Je vous ai parlé du Conseil de presse qui est un tribunal moral pour faire en sorte que les gens au sein de la profession journalistique, donc les journalistes, puissent être un peu tenus à respecter certaines normes, une certaine déontologie, certaines règles. Ce conseil de presse-là, actuellement, qui est un organe de régulation, qui est un organe que, collectivement, nous donnons, eh bien, cet organe-là est poursuivi actuellement par une corporation qui s'appelle Québecor. Donc, il y a une corporation dont les journalistes issus de cette corporation-là ont eu des blâmes et par un concours de circonstances, cette corporation-là, Québecor, plutôt que de recevoir les blâmes et de corriger leur manière de faire, donc de faire en sorte que peut-être les chroniqueurs n'aient pas plus loin dans certains commentaires ou se limitent, eh bien la corporation poursuit l'organe qui est censé réguler les propos tenus dans les médias, que ce soit la presse écrite ou que ce soit les radios. Donc, le conseil de presse se fait poursuivre par une corporation. Donc, c'est un peu fascinant de voir qu'un organe moral, qu'un organe
public.
Public d'autorégulation pourrait mourir, pourrait disparaître suite à des poursuites tellement importantes.
D'entreprises privées.
Donc, c'est un peu l'état de la situation, je dirais, au Québec actuellement.
C'est symbolique.
Ouais. Donc, Québecor contre le Conseil de presse du Québec, c'est en cours actuellement et je crois que c'est symptomatique un peu de cette idée-là, de la liberté d'expression, des bornes qui sont sans doute dépassées et de l'état de la démocratie actuelle qui est une démocratie libérale, là, donc où la liberté d'entreprise est beaucoup plus importante et beaucoup plus protégée là, que la liberté d'expression. Encore faut-il s'entendre sur la définition de cette liberté d'expression.
Et dernière question cette fois-ci. Tu travailles, Simon-Olivier, sur l'archivage des radios associatives. Alors, on ne va pas partir sur ce thème parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais peut-être quand même un petit mot sur l'intérêt qu'il y a à archiver ce qui est produit, ce qui est fabriqué dans ces radios associatives, que ce soit au Québec ou ici en France. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'archiviste, tu t'intéresses à ces enjeux-là?
Ben d'abord, je ne suis pas archiviste, là, ça me réjouit beaucoup plus de parler de ce sujet-là parce que ce sont des archives qui sont fascinantes, en fait, pour les institutions. Je nomme ça des institutions, là, les radios associatives sont très importantes dans une localité, dans une ville, ce sont des lieux de prise de parole pour des communautés de toutes sortes. À travers les archives de ces radios-là, on entend un peu les différentes communautés qui sont présentes dans une localité. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces archives-là, en fait, c'est la manière dont elles sont prises en charge par des gens qui sont justement pas archivistes. J'appelle ça des archivistes ad hoc. Donc, des gens qui n'ont pas de savoir professionnel, qui n'ont pas un savoir académique lié aux archives, mais qui se disent, ces archives-là, ils parlent de notre radio, ils parlent de notre asso, ils parlent de nos communautés, ils parlent d'éthique, de valeur, de beau, de bien, et on va faire quelque chose avec ces archives-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les documents au sein de ces radios-là sont mis en valeur, sont archivés, sont traités. Donc, j'essaie de voir à l'œuvre là, comment on peut donner vie à ces archives-là. Et c'est des archives qui nous permettent d'avoir un certain rapport avec notre propre histoire individuelle.
Locale.
Et locale et collective, là, en tant qu'institution radiophonique associative, là. Il y a quelque chose qui est important à voir et à voir venir aussi. Parce que dans l'archive, on peut voir le devenir aussi. Là. Donc, c'est un peu autour de ça que j'aime réfléchir, là, les archives au sein des radios associatives. Comment ces documents-là sont produits, comment ces documents-là sont conservés et comment ils sont réutilisés. Parce que c'est dans leur réutilisation qu'on prolonge la vie de ces documents-là. Et peut-être la vie de nos organisations, de nos assos au jour le jour.
Merci Simon. Olivier, je précise qu'à Jet, on est justement en pleine réflexion sur cette question des archives. Et puis que peut-être eh bien, on aura l'occasion de refaire des contenus radiophoniques dédiés à ce thème. Et puis pas simplement pour Jet, mais plus globalement sur cette question de l'archivage radiophonique. Merci Simon Olivier.
Merci beaucoup Alexandra.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet jetfm.fr. À suivre dans un instant, Pensée locale, des formats courts de 5 minutes portés par la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Tout de suite après, vous pourrez retrouver Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone!
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Économie sociale
et solidaire en Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Permettre aux jeunes de pratiquer la création audiovisuelle, c'est un des objectifs de l'association Café Prod, située dans le quartier Bellevue-Chantenay à Nantes.
C'est trop théâtral.
Trop aventure. Moi, ce que j'imaginais avec les drums, ce serait un truc un peu plus progressif. Tu vois.
Nous avons rencontré Ludovic Mitoureri, coordinateur de projet chez Café Prod, pour en savoir plus.
Alors, on a pour activité la production de contenu audiovisuel, l'accompagnement artistique, l'accompagnement de projets. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, on fait de l'accompagnement et de l'éducation à l'image auprès des jeunes des quartiers populaires, mais pas que, qui souhaitent faire du cinéma, travailler dans les médias, enfin en tout cas qui souhaitent se mettre à la pratique audiovisuelle, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou le réseau pour se mettre dans des grandes écoles. Et l'idée, c'est de mettre en relation des jeunes entre 16 et 26, 27 ans, et des professionnels du milieu de l'audiovisuel, soit monde du journalisme, soit monde du cinéma, soit monde des médias, et que les jeunes apprennent des pratiques et des savoir-faire et des outils numériques et audiovisuels au contact de ces professionnels pour ensuite qu'eux puissent le retranscrire pour créer leur propre projet.
L'association suit une vingtaine de personnes avec un noyau dur de 8 jeunes. Nous avons rencontré Mickaël qui fait partie de Café Prod depuis bientôt 2 ans.
Qu'est-ce que l'association Café Prod m'a apporté ? Elle m'a apporté déjà un cadre, elle m'a apporté une certaine, comment dire, rigueur, mais surtout j'ai trouvé un esprit d'équipe, quoi. J'ai trouvé un esprit de faire les choses, un esprit créatif. J'ai trouvé une belle dynamique dans cet asso et je me sens bien. Et voilà.
Il y a vraiment ce truc pour moi qui est important, qui s'est créé chez beaucoup de jeunes, c'est cette envie de se dire, ok, nous aussi, on peut faire partie du truc, nous aussi, on a le droit de participer à ce mouvement créatif, de faire partie du paysage, on va dire, audiovisuel et culturel nantais. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier, ou c'est pas parce qu'on n'a pas une formation professionnelle ou dans une grande école qu'on ne peut pas venir toquer à certaines portes et qu'on ne peut pas se permettre de venir proposer un projet.
Pourquoi, pour toi, du coup, c'est important de donner l'opportunité aux jeunes des quartiers populaires de pratiquer la création audiovisuelle ?
Moi, c'est tout le cœur de mon action, de mon engagement et de mon projet. C'est parce que, pour la petite histoire, je travaillais avant à Paris dans le monde du cinéma, entre guillemets, et j'ai identifié, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vrai souci de reproduction sociale dans le cinéma. Moi, par exemple, je consomme beaucoup de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant, et malgré ça, je trouve que j'y vois quand même beaucoup de défauts, parce que je trouve que c'est un cinéma qui se répète beaucoup. On y voit souvent le même type d'histoire, le même type de discours, le même type de personnage. C'est souvent les mêmes environnements sociaux. Quand ça sort un peu des sentiers battus, c'est souvent pour donner une image un peu négative des quartiers populaires. Et donc mon objectif, et j'imagine aussi celui des jeunes, c'est que ce nouveau public s'approprie les outils d'audiovisuel pour pouvoir ensuite s'emparer de ces outils et créer eux-mêmes. Et ensuite qu'ils puissent eux-mêmes raconter leurs propres histoires, leurs propres envies. Ça ne veut pas dire que ça donnera des trucs hyper politisés, mais au moins ça donnera des trucs qui viennent d'eux-mêmes. Et ce ne sera pas des gens qui raconteront pour eux. Et voilà, à l'image aussi de l'égalité homme-femme en politique ou dans la culture, il y a aussi une forme de diversité qu'il faut petit à petit promouvoir pour que nos films dans les salles de cinéma et dans nos écrans télé ressemblent plus à la vraie population française.
Cet automne va sortir Feu Follet, le premier court-métrage de fiction conçu par les jeunes de Café Prod. En attendant, vous pouvez retrouver leur web TV locale dite Moka TV sur YouTube.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Mélissa Leroy pour JTFM.